Benoît Brunet. Salut, Benoît.
Salut, Mario.
On l'a entendu avec Martin, là, il sentait la pression là, qui accablait l'équipe depuis la contre-performance de lundi. On n'a pas pu se racheter tout de suite avec une victoire au Colorado. Alors, on comprend à quel point la victoire d'hier contre l'Arizona fait beaucoup de bien, Benoît.
Oh, absolument. Je pense que le Canadien a pas connu un de ses meilleurs matchs, mais a trouvé une façon de gagner. Puis c'est ça qui était important. Les petits ajustements de Claude Julien sur ses trios ont fait en sorte que on a vu des changements qui ont été bénéfiques. Je ne dirais pas bénéfiques à 100% de la façon qu'ils ont joué sur la glace, mais en bout de ligne, à la fin, ils ont gagné. Puis moi, ce que j'ai aimé sur le but victorieux, c'est où on était placé pour marquer ce but-là. Je pense que c'est ça qui a fait défaut dans le match contre l'Avalanche. Le Canadien a décoché des tirs, mais en périphérie, de l'extérieur. Moi, ce que je disais avant le match, il faut salir le nez, il faut aller devant le filet, puis c'est là que tu marques des buts si tu veux faire la différence dans la Ligue nationale. Puis c'est exactement où était placé Byron. Très bon travail de shot d'anneau. File la rondelle de l'autre côté à Byron et directement dans l'enclave. Fait que les gars ont voulu payer le prix sur ce but-là. Ils ont payé le prix. Ça a donné le but victorieux. Puis ce que j'ai aimé, c'est que Price a sauvé le match en deuxième période.
Vraiment.
Le Canadien a fermé le jeu en troisième. Ça, c'est vraiment intéressant parce que les Coyotes n'ont pas eu beaucoup de chances de marquer en troisième. Puis ton gardien de but dans la première et la deuxième période a fait la différence, Mario.
Le Canadien bat les équipes qu'il doit battre, en tout cas. Tu sais, Colorado, ouais. C'est une équipe qui est bien placée au classement. On n'est pas assez près d'avoir un point, mais un club contre l'Arizona. Puis le Canadien qui a une pas pire fiche, somme toute, sur la route également. Là, 8, 6 et 3 sur la route. Alors, il fallait vraiment pas l'échapper hier. Sinon, là, le reste du mois de décembre aurait pu, comment dirais-je, s'avérer peut-être un peu pénible.
Oui, je suis d'accord avec toi. Dernièrement, c'est ce que le Canadien fait. On bat Ottawa, tu bats les Rangers, tu bats la Caroline, tu arrives contre San Jose, situation de deux matchs en deux soirs, tu perds. Écoute, j'ai plein de confrères, puis je te nommerai pas leur nom, là, qui ont été impliqués dans des rivalités puis des matchs entre les Bruins et le Canadien. Puis au cours des deux derniers jours là, qui ont passé, là, pour... écoute, ils m'ont parlé de ça, c'était affreux parce que
cette rivalité-là,
là, ben, il n'en revenait pas. Écoute, cette rivalité-là, je pense pas qu'elle est aussi intense que celle entre le Canadien et les Nordiques, mais quand même très intense. Puis oui. Là, les gars se disent pas se présenter contre Boston, une bonne équipe dans la Ligue nationale, ça n'a pas d'allure. Là, tu joues contre l'Avalanche Colorado, tu joues pas un mauvais match, t'es mieux, mais pas assez pour gagner. Là, tu bats un club que tu dois battre. Fait que ça, c'est positif. Mais en même temps, ça peut être inquiétant.
Ben, t'as raison de dire que ça peut être inquiétant. Mais au moins, en faisant ça, en battant les équipes qui sont en bas d'eux autres, ils se maintiennent au classement en attendant de trouver les ressources ou la façon de se motiver ou le plan de match pour battre des meilleures équipes, Ben. Ça va être incontournable là, si tu veux t'accrocher à tes chances de faire des séries.
T'as absolument raison. Puis moi, après le match du Canadien, hier, je suis allé voir un peu comment ça se passait entre Vegas et les Islanders. Puis les Islanders venaient dans le match, puis Vegas est revenu. Fait qu'on va affronter un club qui... sans Patrick, mais un club qui va bien jouer. Mais les clubs derrière ou qui sont tout près du Canadien présentement, moi, je pense que le Canadien est aussi bon que ces clubs-là ou est meilleur que les clubs derrière nous.
Oui.
Ça, c'est la bonne nouvelle. Parce que, tu vois, les Panthers de la Floride sont fait geler par les Maple Leafs. Les Islanders ont perdu. Moi, je pense que les Pingouins vont grimper dans le classement, là, surtout avec le match contre Washington où ça a brassé. Des fois, ça revigore un peu ces matchs-là de rivalité. Puis des fois, ça peut te relancer durant la saison. Mais tous les clubs qui sont derrière nous, là, présentement, puis les clubs qui sont près de nous, je pense que le Canadien est très bien positionné. Il faut que tu gagnes ces matchs-là. À un certain moment, j'ai hâte de voir, puis là, il faut que tu sortes de ta zone de confort, puis il faut que tu commences à battre des clubs qui sont en haut de toi au classement. Puis ça va être intéressant. Vegas, pas un bon début de saison, mais c'est une équipe qui joue bien dernièrement. Après les fêtes, tu vois, les Panthers de la Floride, le Lightning de Tampa Bay qui a joué un match incroyable contre Calgary hier. Moi aussi, je suis allé voir ça un peu parce que c'est, même si les gardiens de but ont accordé 4 buts en temps réglementaire, là, les deux, là, c'était un match de hockey exceptionnel. Fait que c'est ça que je veux voir du Canadien. T'sais, je veux voir un club qui est capable de compétitionner puis qui est capable de battre les mauvais clubs, ça c'est normal, mais les bons clubs aussi.
Je sais pas si Domi ou Galchenyuk de l'autre côté avaient mis de l'argent sur le tableau pour motiver leurs coéquipiers, mais ni l'un ni l'autre n'a vraiment dominé cet affrontement-là, hein, Benoît?
Non, puis Domi, depuis 2-3 matchs, c'est un petit peu plus dur, mais je suis pas inquiet dans le cas de Domi, parce que je le regarde jouer, pis c'est un gars qui joue pas mal plus nord-sud que est-ouest.
Oui.
Fait qu'il y a eu un début de saison incroyable, dans mon cas, moi, inespéré, là, je m'attendais pas à ça, je m'attendais à ce qu'il joue bien, mais écoute, quand tu regardes ses statistiques, là, c'est plus de 30 points, pis c'est tout près d'un point par match. Il a gagné une mise en jeu importante sur le premier but du Canadien en avantage numérique, droit refiler ça à Petrie, de l'autre côté chez Weber, mais il va s'en sortir. Au niveau de la production, ça sera pas aussi bon probablement qu'en début de saison, mais il va toujours être là, puis il est toujours impliqué. Pis quand tu joues du hockey nord-sud, habituellement, t'es dans le visage de tes adversaires. Galchenyuk, aïe aïe.
Ça ressemble au Galchenyuk qu'on a connu, hein, Benoît?
Oh, hier, là, je le regardais, puis j'avais vu un match J'avais vu le match précédent, là, puis je le regardais jouer, là. Puis ce gars-là, son niveau de concentration n'est pas là, Mario. C'était la même chose à Montréal. Il n'est pas prêt à jouer dans Ligue nationale. Puis c'est juste son talent et sa réputation qui le maintient là.
Il va se retrouver dans le KHL d'ici peu.
Écoute, ça se pourrait à la fin de son contrat si ça débloque pas. Je sais pas si Rick Tocchet puis va être capable de le relancer, mais je le regardais hier, puis c'était le même joueur. Défensivement correct, pas plus que ça. Il attend son petit lancer en avantage numérique à gauche gardien de but. Pas trop impliqué dans des bagarres un contre un. Moi, je trouvais hier même qu'il était lent. Je sais pas si c'est la pression d'affronter son ancienne équipe qui a fait ça, mais le match précédent, ça ressemblait à ça, même si je te dirais que c'était peut-être pire dans son cas. Il arrive en retard en échec avant. Il arrive en retard dans ses entrées de territoire. Il est en avance sur des jeux où il veut, tu sais, aller chercher le petit pied ou le petit 6 pouces de plus pour essayer de créer quelque chose en attaque. Fait qu'il, tu sais, il y a des hors-jeux, il est pas bien positionné, il faut qu'il arrête de patiner, il faut qu'il retourne de côté. Écoute, ça va être très difficile pour lui. Et moi, je pense que c'est tout relié à ce qui se passe à l'extérieur de la glace avec ce gars-là. Moi, je pense que, écoute, là, je suis pas au courant autant de ce qui se passe en Arizona, ce qui se passe à Montréal, mais moi, j'ai toujours pensé que son père était peut-être trop près de lui. La famille proche, là, je me suis dit peut-être que s'il s'en va en Arizona, il va pouvoir éliminer ça. Mais il n'y a pas l'air d'un gars qui a de l'air d'avoir du plaisir à jouer au hockey. Puis ça va le rattraper à un certain moment parce que, tu sais, Yakupov, il y a des clubs qui ont pris des chances sur lui. Saint-Louis a pris une chance. Après ça, il est allé au Colorado puis il n'est plus dans la ligue. Mais Alex a prouvé qu'il était capable de marquer des buts. Il en a marqué 30 dans la ligue avec le Canadien. Ça, c'est déjà bon. Fait qu'il y a une longueur avance de ce côté-là. Mais à un moment donné, tu peux pas brûler la chandelle des deux côtés. Puis là, je parle pas de sortie nocturne, toutes ces affaires-là. Moi, je parle pas mal plus dans son entourage près au niveau des conseils qu'on lui donne. D'un côté, puis après ça, c'est les conseils de l'entraîneur. Mais là, lequel t'écoute?
Ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que les conseils que des proches vont te donner, c'est souvent des conseils pour ton jeu individuel. Tandis que le défi de tout joueur, peu importe ton niveau de talent, c'est de t'intégrer dans la vision collective et celle de l'entraîneur. Et,
très bon point.
Tu sais, je pense que c'est souvent ça, là. Les parents trop proches, ils pensent souvent à la fiche de leur gars, là, hein?
Ouais, c'est ça, mais fais pas ça comme ça. Ouais, mais l'entraîneur m'a dit de jouer de même. Ouais, mais fais ça comme ça. Mais ça, je pense que c'est vraiment pas bon. Puis je l'ai vu à Montréal. On l'a vécu à Montréal. Je sais pas si ça se poursuit en Arizona, mais j'ai pas vu de changement. Fait que ça doit être comme ça que ça fonctionne pour lui. Ça, c'est malheureux parce qu'il est en train de détruire sa carrière, là. Tu sais, il fait quand même de la bonne argent puis il joue dans la Ligue nationale. Mais moi, je pense qu'il est en train de gaspiller son talent parce que ce gars-là est bien meilleur.
Ben oui.
Il démontre ça, là. Il est en avant de Yakupov, il est en avant de plein de joueurs puis il est capable de jouer au hockey. Mais il y a quelque chose qui l'empêche de laisser son fou aller, si je peux m'exprimer ainsi, là. Tu sais, de juste sauter sa glace puis jouer au hockey. On dirait qu'il y a des menottes puis qu'il est pris dans un étau puis qu'il est pas de se laisser aller. C'est le contraire. Un joueur talentueux comme ça, là, il devrait s'éclater sur la glace puis montrer à quel point il est talentueux.
Déjà rendu au 21 décembre, Benoît, ça a l'air de rien, là, mais le Canadien a 36 matchs de jouer et sur le point d'atteindre le cap de la mi-saison. Et j'ai envie de te demander, au retour de la pause, qu'est-ce qui donne le plus confiance et peut-être en contrepartie, peut-être qu'est-ce qui t'inquiète le plus pour la suite des choses. Mais on va y aller dans le positif dans un premier temps. C'est le temps des fêtes quand même. On revient tout de suite après ces messages, Benoît. Nous sommes de retour avec Benoît Brunet. Benoît, on arrive au cap de la mi-saison, mine de rien. 36 matchs de jouer, 18 victoires, 13 défaites, 5 défaites en prolongation pour 41 points au classement. C'est 3 points que les Islanders qui sont 9e. Et si on regarde les équipes de l'Atlantique, c'est 6 points de plus que Détroit, qui sont la 5e équipe dans le classement des équipes repêchées au 4e as, donc qui sont en bas de la ligne des séries. Qu'est-ce qui te donne le plus confiance pour la suite des choses à la lumière de ce que tu vois actuellement chez le Canadien?
Carey Price.
Ah, c'est exactement la réponse que je souhaitais entendre parce que c'est ça l'élément le plus rassurant. Après avoir été un élément inquiétant dans le premier quart de la saison, il redevient le gars qu'on voulait voir.
Ouais, absolument. Puis, tu sais, on regardait ses chiffres, là, son pourcentage d'arrêt quand ça allait pas bien, là, tu sais, à 80, en bas de 80, même pas 90% de pourcentage d'arrêt dans sa léthargie. Puis là, après le match contre Calgary, je pense qu'il a été relancé. Puis depuis ce temps-là, il joue du bon hockey. C'est sûr que sur le premier but contre le Colorado, il a mal paru, il remet à rondelle à McKinnon, mais ça arrive. Puis il y a une chose, puis écoute, je rencontre plein de gens, Mario, les gens me parlent juste de son salaire. De son salaire, puis la minute qu'il y a une contre-performance, mais il gagne 10,5.
Il n'a pas le droit de laisser ça passer à 10 millions par année.
C'est ça. Quand ça n'allait pas bien, je pouvais le comprendre un peu parce que tu te dis, faut qu'il soit le meilleur ou un des meilleurs joueurs du Canadien si le Canadien veut bien performer. Ça, c'est normal. Mais à chaque fois qu'il fait une bourde, le salaire revient, là. Cette bourde-là, là, ça n'a rien à voir avec le 10.5. Il y avait Jordy Benn à sa droite, il y avait Shea Weber d'un côté, puis là, il s'est dit, à qui je la donne? Moi, je pense que je vais essayer de la donner à Weber au lieu de Jordy Benn. C'est pas compliqué. Moi, je l'ai vu comme ça. Puis c'est normal parce que Shea Weber est pas mal plus fiable. Mais Carey joue du bon hockey présentement. Est-ce qu'on aurait pu récolter un point si elle avait fait ce bourre-là au Colorado? Peut-être, Mario. Mais il reste que le club a bien joué, mais pas si bien joué que ça.
Non.
C'était pas lui le problème dans ce match-là. Puis hier, il nous a démontré en deuxième période que c'est ça Carey Price. Puis s'il peut garder le fort comme ça pour un bon bout de temps, le Canadien va être meilleur que tous les clubs, comme je t'ai dit tantôt, derrière nous. Parce qu'on a un gardien de but. Je regardais Grice, les Islanders hier, là, il suivra pas le rythme. C'est la même chose avec Leonard du côté des Islanders. Si Carey continue à garder les buts comme il l'a fait là, on va se positionner dans le wild card probablement, dans les équipes repêchées, je suis convaincu. Mais c'est lui la clé du succès avec Shea Weber dans la formation.
Le jeu de puissance a marqué hier, a marqué avant-hier. Espères-tu qu'il y a une tendance là qui pourrait s'installer pour 2019 et le reste du mois de décembre, Benoît?
Oui, y a deux joueurs pour moi qui doivent faire la différence, c'est Shea Weber. Puis depuis le retour de Shea Weber, là, on l'a mal utilisé. Puis c'est sûr qu'on essaie de le surveiller de près, puis on va placer un gars plus près de lui en désavantage numérique. Mais ça, c'est aux joueurs autour de lui, puis à Shea Weber, de trouver des ouvertures sur la glace.
Ben oui.
Si Shea Weber est surveillé, ça veut dire que c'est un surnombre de 4 contre 3, c'est à toi de faire la bonne chose avec la rondelle pour décocher des tirs, pour obtenir de bonnes chances de marquer. Le joueur, pour moi, qui doit, puis qui faut qu'il fasse la différence là, en avantage numérique, c'est Drouin.
On est d'accord.
C'est lui qui devient le corps arrière. Tu sais, on dit toujours... Ouais, Shea Weber, ils sont lancés. Ouais, mais c'est le corps arrière, il faut qu'il lui refile la rondelle. Fait que, il y a une question de confiance, une question de chef, il y a une question de respect aussi de l'adversaire, parce que là, les autres clubs disent, bah, le jeu de puissance canadien, c'est pas très, très fort. Fait qu'on peut, prendre, tu sais, on va donner un petit peu plus, un petit coup ici, un petit coup là, puis c'est pas grave, parce qu'on va éculer le temps des avantages numériques. Ils sont pas bons en avantages numériques. Fait que tout ça, là, tu sais, ça peut te donner un peu plus de marge de manœuvre. Puis si Drouin est capable de refiler la rondelle à Shea Weber ou à des joueurs qui sont libres, mais là, ton jeu de puissance va devenir une menace. Parce que je regarde les clubs jouer contre le Canadien présentement à désavantages numériques, c'est pression, pression, pression. Les gars sont pas en confiance. Mais quand Shea Weber décroche un tir comme il l'a fait hier, mais il fait mal paraître les gardiens de but adverses. Faut que tu trouves les lignes de tir, faut que tu le repères sur la glace, puis il faut absolument que Jonathan distribue des rondelles comme un Kuznetsov, comme un Backstrom, comme un Granlund avec le Wild du Minnesota. C'est lui la clé en avantage numérique. Puis si tu marques des buts en avantage numérique, tu vas avoir pas mal plus d'espace sur la glace.
Prochains adversaires, les Golden Knights de Vegas. La ferveur des amateurs ne se dément pas. Hein. C'était plein à l'entraînement aujourd'hui, comme nous le rapportait Martin McGuire. Ouais. Donc, à leur deuxième année, sont toujours aussi populaires. C'est sûr que c'est difficile d'être deux années de fil l'année où l'équipe Cendrillon, là, ils l'ont été l'an passé, mais ça demeure une équipe redoutable. Marc-André Fleury qui est presque toujours devant le filet et l'équipe qui perd pas souvent à domicile. 11 victoires, 3 défaites et une défaite en prolongation. Est-ce que tu penses que le Canadien a une chance d'aller chercher un ou deux points là demain?
J'espère juste qu'ils prendront pas les Golden Knights à la légère. Moi, j'ai regardé la fin de match, j'ai pas vu le début de match hier contre les Islanders. Je peux te dire une chose, que ça travaille. Ça ressemble encore à l'équipe de l'an passé, intense, rapide, transition. Le retour de Nate Schmidt fait un grand bien en défensive, lui qui avait été suspendu.
Oui.
Puis l'autre joueur que j'ai regardé hier, Paul Stachny, qui était blessé en début de saison.
C'est un gros morceau, ça.
Ben, il a marqué un but hier. Fait que si le Canadien est prêt à jouer au hockey, puis on est prêt à patiner puis à compétitionner, mais une chose, aller dans les endroits où ça fait mal. Ça, j'ai pas vu ça à 100% hier, j'ai pas vu ça du tout contre l'Avalanche Colorado, là. Si tu vas pas au centre de la glace contre les Golden Knights de Vegas, tu vas avoir de la difficulté à marquer des buts. C'est comme ça contre tous les clubs de la Ligue nationale, puis ça, le Canadien doit le faire plus régulièrement. Ils patinent, je te le dis, j'ai été vraiment impressionné encore par leur style de jeu.
Oh oui.
C'était difficile en début de saison, mais ça joue au hockey à Vegas.
Ah, ça sort plaisir. Tu le vois que c'est une équipe bien dirigée, puis c'était juste passager leur début de saison. Ils n'ont pas paniqué. Gérard Gallant n'a vraiment pas paniqué. Paturity ne sera pas en uniforme demain, donc on ne pourra pas faire les comparaisons comme on l'a fait hier avec Domi et Galchenyuk. Mais de toute façon, donc Fleury qui, encore une fois, devant le filet, il y a 32 des 37 départs de l'équipe à venir jusqu'à maintenant. D'ailleurs, quand tu regardes l'affiche de Vegas et l'affiche de Fleury, la seule différence, c'est que, écoute, il y a 20-10 et 2, l'affiche de l'équipe, c'est 20-15 et 2. Alors, quand il n'est pas dans le filet, c'est 5 défaites.
C'est ça. Puis lui, des départs, il n'a pas peur de ça.
Non, monsieur. Benoît, toi, as-tu un départ de prévu pendant le temps des fêtes?
Non, je reste dans le coin. J'ai des matchs à faire entre Noël et Jour de l'An, mais on va fêter ça en famille le 24.
Bien, certainement. Profites-en bien. Au plaisir de te reparler en janvier. Bon temps des fêtes à toi et toute ta famille, Ben.
Toi aussi, Mario.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci. Bye-bye.
Au retour de la pause, on accueille Philippe Quentin, Marc-Antoine Godin, Bruno Eppel sera là également. À tout de suite.